pour investir, la boîte à outils.
Et puis toujours des interrogations autour des perspectives de l'intelligence artificielle. Alors, en termes industriels, qu'est-ce qu'elle apporte ? Qu'est-ce qu'elle a comme valeur ? Qu'est-ce qu'elle va disrupter ? C'est une des grandes questions depuis quelques semaines. Et puis, comment on y investit ? Et pour nous, comme régulièrement, on a Vincent Aurès de Figenaï. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour expliciter un petit peu tout ça. Bah, on sort d'un baromètre, on va rentrer dans un autre baromètre. C'est celui de l'université de Stanford, aux États-Unis. Bah oui. Où va l'intelligence artificielle ? Il y a 10 enseignements maîtres qui sont vraiment quantifiés et que vous pouvez retrouver, bien entendu, en podcast et en replay. On va énumérer un petit peu tout ça. On entend que les capacités de l'intelligence artificielle sont en train d'exploser. Est-ce qu'il a changé en un an ? Et est-ce qu'il y a une forme de plafonnement de tout ça qui est en train d'apparaître ?
Alors, heureusement ou malheureusement, pas du tout. C'est même le contraire.
Sky's the limit.
Sky's the limit. Ouais, et en fait, ça s'accélère. Ce qu'on voit, c'est que les modèles à des échéances de temps de plus en plus courtes deviennent de plus en plus puissants. Pour vous donner un exemple très concret, et on voit l'impact sur l'emploi notamment, c'est les développeurs informatiques. Les développeurs informatiques utilisaient déjà l'année dernière des modèles d'IA qui les aidaient grandement. Ces modèles informatiques, on va dire qu'ils avaient environ 50% dans des tests de développement informatique. Mmh. Ils atteignaient ce succès-là, 50%. Désormais, on est plutôt proche des 100% que des 50%. Et dans un an, eh bien, on verra le rapport de Stanford dans un an. Mmh. Fort est à parier que les modèles deviendront encore plus puissants que le meilleur des développeurs informatiques humains.
Bon, et ça, c'est pas fait n'importe comment. C'est pas du doigt mouillé. On se base sur l'évolution des modèles de programmation. Et c'est là-dessus que Stanford est archi fort.
Oui.
Et là, on a des données vraiment précises. Et
effectivement, il faut littéralement vous imaginer qu'il y a d'ailleurs des compétitions, y compris donc en développement informatique, où vous mettez les 10 meilleurs développeurs informatiques sur une thématique donnée et vous faites tourner un ordinateur qui a un modèle d'IA. C'était un peu Gasparov avec les échecs il y a quelques années. Alors, c'était pas vraiment les mêmes modèles, mais on peut imaginer ça.
Contre Deep Blue d'IBM.
Bah voilà.
Oui. Alors c'était ça.
La nouvelle, c'est qu'on est en train de faire ça, Deep Blue, mais pas aux échecs, en développement informatique,
voilà.
En raisonnement juridique, en raisonnement financier, en allocation. Et on est en train de faire des parties d'échecs un peu partout et on voit qu'il reste des Gasparov. Mais qu'il va falloir peut-être changer notre manière de jouer aux échecs ou autre.
Je voudrais juste parler un petit peu du phénomène de disruption auquel on a assisté ces derniers mois, notamment concernant l'ensemble du secteur des logiciels.
Oui.
On a vu qu'on était arrivé à une sorte de fond de cuvette là, ces derniers jours, avec des indications intéressantes. Il y a Blue Owl Capital qui a beaucoup investi en dette privée sur le secteur des logiciels, qui s'est fait disrupter par l'IA et c'est une problématique. Ils arrivent à nouveau à lever de l'argent, 400 ouais. millions. Alors certes, avec un gros acteur qui se déclare. On a Thomas Bravo, on en a parlé hier dans l'émission, qui revient aussi sur le secteur des logiciels en disant « Non, arrêtez, la disruption va y en avoir, mais les logiciels, c'est les principaux utilisateurs et architectes de la mise en œuvre de l'IA concrète au sein du monde de l'entreprise et de l'économie. » Est-ce que vous pensez que le marché, en se livrant à ce jeu de massacre
oui.
ces derniers mois, c'est pas finalement complètement gouré ?
Je pense, comme dans tout phénomène de bulle, les bulles ont leur vertu aussi, des fois, avec une allocation du capital. Et puis, en même temps, les bulles ont leur mythe. Et c'est sans doute l'un des mythes, et on est en train de s'en apercevoir.
Et c'est pas souvent qu'on a cette forme de bulle destructrice. D'habitude, la bulle, ça crée de la valeur. Là, ça en a détruit.
C'est vrai, et ça va peut-être même continuer. Regardons ce qui se passe dans le domaine de la cybersécurité, avec les derniers modèles d'IA, notamment le modèle d'Anthropique, qui semblerait, détecte des failles dans des logiciels qui étaient reconnus et très utilisés, là où aucun humain n'y était arrivé. Et donc, on va peut-être passer encore plus à ce phénomène que vous décrivez, avec de la disruption, avec beaucoup de volatilité, finalement, sur les marchés, notamment les marchés du logiciel. Est-ce que ça veut dire que le marché du logiciel est fini ? Je crois pas, notamment pour cette question de cybersécurité. Mmh. Tout le monde peut désormais, avec son téléphone, coder une application qui va faire sensation dans un dîner et qui va pouvoir faire tout un tas de choses. Néanmoins,
étonnera vos amis. C'était l'argument maître des années 80.
Et voilà, alors on peut étonner énormément ses amis aujourd'hui avec de l'IA. Maintenant, on peut, si on a une entreprise et si on est investisseur dans une entreprise, On préfère qu'il y ait des architectes en cybersécurité qui font peut-être tourner des modèles d'IA pour s'assurer. Les incidents en cybersécurité, c'est ce que révèle encore ce rapport, ont quasiment doublé en nombre d'une année à l'autre. Et avec ce qu'on est en train de se dire, eh bien, ça va encore, encore et encore se multiplier.
Alors, on repasse à cette étude de Stanford, parce qu'elle est quand même super intéressante et on pourra en parler des heures, mais on dézoome. On a le globe terrestre.
Ouais.
Globalement, c'est qui contrôle la course à l'IA en ce moment? Est-ce que c'est les États-Unis? La Chine ne dit plus rien depuis des mois, mais quand la Chine dit rien, c'est qu'elle prépare un truc.
Alors,
C'est qui est dans le lead, quoi, finalement, dans l'inspiration?
Dans le lead de l'allocation du capital privé, il n'y a pas à dire les États-Unis. Les États-Unis, hein, c'est 10 fois plus de centres de données, au moins, que le reste du monde. Donc, c'est énorme.
Mais voilà.
Finalement, est-ce que ce qui nous intéresse en tant qu'utilisateur, en tant qu'entreprise qui utilise de l'IA, qu'est-ce qui m'intéresse? Moi, ce que je veux, c'est le modèle peut-être le moins cher, le plus performant, ou alors le plus performant. Et là, on s'aperçoit, sur des plateformes d'ailleurs dirigées par des Français, comme Hugging Face, eh bien on voit que les modèles chinois, c'est en moyenne, hein, 2% de performance en moyenne inférieure au modèle américain. 2% de performance en moins, mais ils sont libres. Ils sont quasiment gratuits si on a de quoi les faire tourner. Et ils rattrapent à chaque fois de plus en plus.
Bien sûr.
Et donc, si on regarde l'allocation du capital privé, on voit les États-Unis. Si on voit ce qui est utilisé et ce qui a de l'avenir, je miserais plutôt sur un duopole américain et chinois.
Et au milieu de tout ça, c'est les cerveaux, bien sûr, et les brevets. Ça, il ne faut pas l'oublier.
Et là, brevets, licences et nombre de modèles, ouais. La Chine surpasse tout le monde. Elle est aujourd'hui leader du nombre de brevets.
Bon, ça, c'est à retenir. On termine juste par des considérations en matière d'évolution. Est-ce que l'adoption de l'IA est toujours sur une tendance exponentielle? Ou est-ce que, moi je vois qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui disent « Oui, on a adopté l'IA pour faire ci et ça. » Deux mois après, ils disent « Oui, bon, on a remis des humains parce que ça ne marche pas, votre truc. » Bon, tout ça, c'est des chaos au démarrage.
Oui.
Mais la tendance de fond, elle reste toujours à une adoption sur une courbe exponentielle.
Si on regarde adoption de l'ordinateur, de Internet, des téléphones portables et de l'IA, l'IA est sans commune mesure la technologie qui a la plus forte et rapidité d'adoption. 53% des gens l'utilisent aujourd'hui dans le monde en 3 ans de lancement, après 3 ans de lancement.
Ouais.
Pour vous donner un ordre d'idée, hein, l'ordinateur, c'était environ 35% au bout de 3 ans. Et pourtant, les ordinateurs commençaient à être utilisés. Là, plus d'une personne sur deux, ça y est, a commencé à l'adopter. Alors, pour les entreprises, et puis en tant qu'investisseur dans ces entreprises, je pense qu'il faut regarder une chose, c'est est-ce que c'est accompagné d'un plan social? Et là, je dirais attention au marketing.
Vaste question.
Est-ce que c'est un investissement ou est-ce que c'est une communication? Et deuxièmement, est-ce qu'il y a un vrai plan long terme sur l'IA? Par exemple, voilà ce que je vais faire de la masse des salariés que je vais petit à petit automatiser. Et voilà le plan de formation. Et j'ai vu ici même des chefs d'entreprise en parler avec une vision long terme. Donc je pense qu'il faut regarder, même quand on n'est pas forcément spécialiste de l'IA, de quoi s'accompagne cette annonce et on détectera est-ce un investissement, est-ce une vision long terme ou est-ce un petit maquillage.
C'est très intéressant parce qu'on voit que l'IA peut avoir des illusions et dérailler sur un certain nombre de trucs. On voit que les entreprises ont un petit effet illusion justement sur cette transformation de l'adoption de l'IA en productivité et voire en écrémage.
Oui.
Et voilà, le vrai et le faux, de toute manière, on le voit sur le long terme. Et bah écoutez, merci. C'était encore une fois passionnant. Vincent Aurès, président de Figen AI.